Bonsoir. Alors, bonsoir. Je me présente. Je suis Richard Nadeau. Je suis le président du conseil d'administration de la Société Gatineau Monde. Et je tiens d'abord à vous remercier d'être présent ici ce soir pour une nouvelle conférence de notre Société Gatineau Monde. Cette conférence est intitulée « Les femmes musulmanes entre tradition et modernité » et sera prononcée par Mme Monia Mazig. Avant de vous présenter notre conférencière de ce soir, Mme Mazig, permettez-moi de remercier les commanditaires de la Société Gatineau Monde. La Ville de Gatineau, Mme Nicole Turmel, députée fédérale de Hall-Elmer, Mme Françoise Boivin, députée fédérale de Gatineau, l'Association de circonscription du Bloc québécois de Gatineau, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, l'imprimerie Multiprinting, la coopérative de café, la Terra Coop. Également, nous tenons à remercier les commerçants qui sont nos points de vente des billets pour nos conférences. Et je les nomme à l'échelle du monde, Café La Tierra, la bouquinerie ADD, Librairie du Soleil, Librairie Louis Fréchette, Librairie Micabou, Relais Camp de Base, Sol Épicerie Santé. Nous tenons aussi à remercier la Société Radio-Canada pour l'entrevue qu'ils ont tenue ce soir, Le Monde selon Mathieu, avec notre conférencière. Ceci dit, la façon de fonctionner ce soir, notre conférencière nous entretiendra pendant 45 à 60 minutes, suivra une période de questions, et lors de la période de questions, c'est moi qui contrôle la circulation. Alors, on aura le droit à une, deux, trois questions, questions courtes, et après coup, je donne la parole à notre conférencière qui vous répondra. Après la période de questions de ce soir, Mme Mazig se prêtera à la vente de son plus récent roman, « Miroir et mirage ». Elle en profitera pour vous le dédicacer et pour répondre à vos questions. Ce sera à l'entrée, là-haut. Maintenant, au sujet de notre conférencière. Mme Monia Mazig est née en Tunisie et a immigré au Canada en 2001. Elle parle couramment l'arabe, le français et l'anglais et détient un doctorat en finance de l'Université McGill. Mme Mazig a enseigné à l'Université d'Ottawa et à l'Université Thompson Rivers à Kamloops, en Colombie-Britannique. Mme Mazig s'est fait connaître du public en 2002 lors de son combat pour faire libérer son époux, M. Maher Arar, qui avait été déporté en Syrie, où il fut détenu sans accusation et torturé pendant plus d'un an. En janvier 2007, le gouvernement du Canada a finalement présenté ses excuses à M. Maher Arar et à sa famille pour la terrible épreuve vécue et leur a accordé une indemnité. Mme Mazig a publié deux livres, « Les larmes emprisonnées », où elle raconte son expérience après l'arrestation de son époux, et un roman, « Miroir et mirage », livre finaliste pour le prix Trillium, livre également finaliste pour deux autres prix, le livre d'Ottawa et le prix Christine Dimitriou Van Sanen. Au sujet de la conférence de ce soir, Mme Mazig nous entretiendra donc sur le sujet « Les femmes musulmanes entre tradition et modernité ». Vous avez entendu parler d'une certaine charte. Il y a des questions qu'on se pose aussi. Que connaît-on vraiment des musulmanes? Qui sont ces créatures exotiques cachées derrière le voile et qui ne cessent de déranger la mémoire collective, ramenant le spectre de l'empire de l'Église sur la société québécoise? C'est un point d'interrogation qui suit. Peut-on vraiment libérer les musulmanes de leur tradition archaïque? Ce sont des questions que l'on se pose. Et bien d'autres questions dont notre conférencière nous entretiendra. Mesdames et messieurs, accueillons notre conférencière, Mme Monia Mazig.
Merci beaucoup, Richard, pour... je me permets de vous appeler Richard, mais j'aurais dû dire M. Richard Nadeau, pour m'avoir présenté. Merci également à tous les organisateurs et à tous les bénévoles de la Société Gatineau Monde pour leur travail et pour leur professionnalisme. Je tiens également à remercier, encore une fois, la Société Gatineau-Mantes pour m'avoir invitée à donner et m'avoir aussi donné cette occasion pour parler avec vous, pour faire un échange et pour discuter de sujets importants. Évidemment, ce soir, le sujet de notre conférence est la femme musulmane, entre les traditions et la modernité. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais commencer par quelques petites précisions que j'estime nécessaires dans ce débat. Les idées que je m'apprête à partager avec vous ne représentent que ma propre personne. Je ne prétends pas être une experte en études islamiques, ni une sociologue, ni une anthropologue. Loin de là, j'ai étudié la finance. Ce n'est pas vraiment du tout mon expertise. Sauf que mes réflexions sont très personnelles. Elles sont inspirées de mes lectures, de mon expérience professionnelle, personnelle, et de ma propre compréhension des choses, aussi modeste soit-elle. Je ne possède pas un agenda politico-islamiste et je ne me cache pas derrière mon voile pour vous prêcher ma religion. En fait, je me considère comme une citoyenne qui observe les choses autour d'elle, lit, réfléchit et analyse les questions de l'heure. Même si nous vivons dans une époque où malheureusement les apparences comptent encore pour beaucoup et où l'habit fait encore le moine, ou peut-être devrais-je dire le voile fait la femme musulmane, je ne suis ni le moine ni la femme opprimée dont ce voile en est venu le symbole par excellence. Le débat autour de la femme musulmane n'est pas un débat qui date d'hier. C'est une question qui a intéressé les sociétés à prédominance musulmane depuis plus d'un siècle. En l'occurrence, des noms, peut-être qui ne sont pas aussi familiers au Québec, mais qui sont très connus dans le monde arabe, des noms comme Mohamed Abdou en Égypte, ou Tahar Haddad en Tunisie, sont des penseurs réformateurs très connus dans le monde musulman qui se sont intéressés à la question de la femme musulmane. Ces deux gens, ces deux personnes en l'occurrence, ont demandé une révision du statut de la femme musulmane depuis la fin du 19e et depuis le début du 20e siècle. Sauf que ces questions-là qui ont été déjà posées, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'immigration, avec les réseaux sociaux, et la guerre contre le terrorisme, ce débat prend des allures de plus en plus de guerre. De guerre, de mots, d'émotions, une sorte de choc civilisationnel à la façon de Samuel Huntington. Malheureusement, à l'intérieur de ces débats, les bonnes idées disparaissent, masquées par les clichés simplistes, par les préjugés, où les préjugés s'ancrent davantage dans la mémoire collective. De plus, ces débats sont tellement polarisés qu'il est devenu impossible, presque impossible, de trouver un terrain d'entente qui est l'essence même de toute entreprise démocratique. Certes, vous allez me dire qu'en démocratie, c'est la majorité qui prime, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de la minorité? Comment écouter ces voix sans qu'elles ne deviennent inaudibles? Comment intégrer ces demandes sans qu'elles ne deviennent invisibles ou parfois envahissantes? Aujourd'hui, le débat sur les signes religieux est devenu essentiellement un débat. Et là, je parle des signes religieux ostentatoires, comme ça a été présenté dans le projet de la charte. Donc, c'est devenu essentiellement un débat sur la place du voile, car vraiment, nous ne pouvons pas le cacher, c'est surtout sur ça que la charte porte. On n'a pas vraiment, à ma connaissance, entendu parler des autres signes de religieux, sauf vraiment la place du voile dans la société moderne. En réalité, il s'agit d'un vieux débat qui a toujours eu lieu. Faut-il rappeler le débat de la séparation de l'Église et de l'État, ou encore le débat entre Dieu et César, ce qui est à Dieu revient à Dieu, ce qui est à César revient à César, ou entre le religieux avec majuscule et le politique avec majuscule. Donc ces débats ne se sont jamais clos. Ils sont repris aujourd'hui sous d'autres formes. Et le débat sur la charte, ou devrais-je dire sur le voile des femmes musulmanes, se fait encore aujourd'hui. La différence, c'est que ce débat se fait dans un climat de peur, dans un climat de partisanerie, et où des questions supposées être purement philosophiques, tout à fait légitimes, sont littéralement kidnappées par des politiciens en vue de gagner des votes dans les prochaines élections. La perception populaire, aussi bien dans les sociétés à prédominance musulmane que dans les sociétés occidentales où l'islam est minoritaire, a toujours été que la femme musulmane est la propriété de l'homme, un objet sexuel dont il fait ce qu'il veut, une machine à produire des enfants et dont la chasteté et la pureté sont fortement gardées de peur que l'honneur de la famille soit bafoué. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas? Avant de répondre à ces questions, essayons de voir quels sont les points de vue majeurs autour de la femme musulmane. J'ai recensé 3 différentes catégories de points de vue. Il y a ceux qui pensent que l'islam projette une vision patriarcale de la femme. Pour cela, ce groupe se fonde sur certains textes coraniques et leur interprétation. Faut-il noter encore au passage que ces interprétations sont toujours faites par des hommes? Il y a un deuxième groupe qui pense que l'islam a représenté un progrès immense par rapport à la situation de la femme arabe d'avant la révélation coranique, d'avant le message de l'islam. Et ainsi, selon eux, la femme musulmane a obtenu le droit à l'héritage, l'égalité entre l'homme et la femme quant aux questions religieuses, la condamnation par le Coran de l'infanticide, pratique qui était courante au VIe siècle, au moment de la révélation en Arabie et dans plusieurs sociétés anciennes comme la Chine et comme l'Inde. Il y a un troisième groupe qui pense qu'avant l'islam, les femmes arabes avaient un plus grand pouvoir par rapport à ce qu'elles ont obtenu après l'islam. Par exemple, ce point de vue-là soutient que les femmes avaient le droit de choisir leur mari, et ça c'est avant l'islam, elles avaient le droit de divorcer, que de toutes les façons, il n'y avait pas autant d'infanticides comme certains voulaient faire croire, et que les femmes vivaient avec plusieurs hommes à la fois, et qu'elles ne portaient pas le voile. Donc il y a 3 catégories de vision. Aujourd'hui, on n'en retient qu'une, mais ce sont 3 catégories qui existent et ce sont 3 visions qui semblent a priori contradictoires, mais qui démontrent que même chez les penseurs contemporains et anciens, il n'y a pas une réponse unique quant à savoir si c'est le message islamique et son interprétation qui contiennent les graines de l'oppression de la femme musulmane, ou ce sont plutôt les traditions patriarcales qui existaient bien avant l'islam, dans l'Empire romain, byzantin, perse, dans la tradition judéo-chrétienne, qui sont responsables de la situation de la femme en général, et musulmane en particulier. Faudra-t-il rappeler que, juste un peu d'histoire, que la femme musulmane a toujours joué un rôle important. On ne le voit pas aujourd'hui à la télé, on ne le voit pas dans les médias, parce qu'on nous montre ce qu'on veut vraiment nous faire montrer. Sauf que la femme a toujours joué un rôle important, par exemple, à l'époque de la Révélation, donc au VIe siècle de notre ère. Elles étaient poétesses, marchandes, médecins et même guerrières. L'islam ne les a jamais empêchées de continuer à faire ce qu'elles faisaient. Qu'elles soient membres de l'aristocratie cachée sous les voiles ou paysannes et esclaves travaillant dans les champs, à visage découvert, la femme musulmane a toujours lutté pour se frayer un chemin dans un monde dominé par les hommes et par les interprétations masculines des textes religieux. Ainsi, par exemple, et là je fais un saut pour me situer à la période de la colonisation des pays musulmans. Ainsi, par exemple, la question de la femme musulmane a été utilisée par les colons britanniques et les colons français pour justifier leur colonisation de ces contrées. En effet, ce sont les pratiques de l'islam décrites comme barbares envers les femmes qui ont formé l'ensemble du discours narrateur occidental et ont créé la dichotomie du « nous » et des autres. Le discours de la supériorité de la civilisation occidentale sur l'islam a justifié la prise des terres, l'emprise économique et culturelle sur des pays comme, par exemple, des grands centres islamiques comme l'Égypte et l'Algérie. Et je vais vous donner quelques exemples. En 1887, il y a un monsieur qui s'appelle Lord Cromer. Lui, c'est le consul britannique en Égypte. Il avait déclaré, et là je le cite, « Les raisons qui expliquent l'échec total de l'islam comme système social sont plusieurs. Mais la première raison, et la plus importante, c'est le traitement de la question de la femme. Ce même Lord Cromer a été très actif, pas dans le mouvement féministe, non, dans le mouvement anti-suffragette en Angleterre. » Donc, vous savez de quoi je parle, donc le mouvement anti-suffragette. Donc, lui, il était contre toute possibilité que les femmes britanniques de l'époque puissent pouvoir voter et puissent être considérées comme des citoyennes à part entière, tout comme les hommes. Donc, si on veut parler de double discours, on ne peut pas faire mieux que M. Cromer. Et en plus, non seulement il était actif dans le mouvement anti-suffragette en Angleterre, mais ses politiques en Égypte n'ont pas avantagé les femmes égyptiennes, donc les femmes locales. En augmentant ce qu'il a fait, il a augmenté les frais de scolarité pour les filles. Et donc, déjà que les filles ne pouvaient pas aller assez en grand nombre à l'école, il a fait que seulement une certaine classe de filles en Égypte pouvait accéder à l'école. Un deuxième exemple, un des slogans des colonisateurs français, là on passe à la France, au moment de l'occupation de l'Algérie, était d'ailleurs, et là je cite le slogan, « N'êtes-vous donc pas jolie? Dévoilez-vous. » Une photo, on peut voir une photo dans laquelle on voit trois femmes voilées, tout le visage couvert, mais la quatrième, belle et souriante, avec les cheveux et le visage découverts. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont choisi quatre femmes, je ne sais pas si c'est une allusion à la polygamie de l'islam, mais je voulais partager ça avec vous. Mais ça, encore une fois, c'est un slogan qui a été utilisé pour justifier la colonisation, pour justifier l'envahissement de pays, et puis, bien sûr, avec tout ce que la colonisation veut dire, exploitation des ressources, et puis imposition d'autres cultures et d'autres valeurs. Donc, même si ce discours peut paraître vieux, peut-être certains diraient révolu, il y a des gens qui vont dire « ça, c'est du passé, ça, c'est de 1887 jusqu'à 1900, ce n'est plus vraiment le cas. » Il semble être toujours vivant dans les mémoires. Ça ne s'efface pas. Ça, on ne peut pas gommer cela d'une manière magique. Et dans l'inconscient des gens, rappelez-vous que la justification de l'invasion de l'Afghanistan a été faite par des mots similaires, très proches de ce que M. Cromer avait dit. Par qui ? Par Laura Bush. la femme de George Bush, qui, à l'époque, avait fait appel en 2001 au peuple américain pour appuyer l'opération militaire qui avait pour but, et là je la cite, sauver les femmes afghanes. Encore une fois, le voile, encore une fois, l'image puissante de la burqa vient choquer, vient chercher les gens, vient essayer de ramener de la sympathie pour d'autres buts qui sont beaucoup plus politiques et beaucoup plus machiavéliques. Donc, même si la situation de la femme égyptienne au XIXe siècle, à la veille de la colonisation britannique, était déplorable, il n'y a pas de doute, les faits, et là, je pense que c'est là où un peu, vous allez voir, c'est là où je trouve intéressant, les faits d'utiliser la femme musulmane et la culture musulmane comme prétexte pour coloniser le pays étaient vus par plusieurs comme un moyen d'imposer des valeurs étrangères en vue d'imposer une nouvelle culture. À l'époque, ceux qui se sont ralliés au discours de Lord Cromer étaient les membres de la classe aristocratique égyptienne qui avaient des intérêts économiques et politiques avec les Britanniques. Donc l'émancipation de la femme musulmane a été souvent regardée avec des yeux suspicieux par le reste de la population. Donc on a une classe aristocratique qui a des intérêts, qui parle un discours très proche du discours occidental. Oui, on est pour l'émancipation de la femme, mais on a le 90% du reste de la population qui regarde ce discours et qui essaie de comprendre. Donc, avec des yeux suspicieux par le reste de la population, mais aussi ce discours émancipateur qui, d'un côté, prônait des idéaux de libération de la femme, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit ? On emprisonnait les hommes, on opprimait les populations, on violait les femmes, on confisquait les terres. Et ceci a contribué à la naissance d'un discours religieux, nationaliste, très conservateur, qui, au lieu de libérer la femme, comme c'était prêché, comme c'était voulu par l'invasion, ou par les colons, ou par le discours, disons, occidental, au lieu de libérer la femme, on a fait un symbole de la pureté religieuse, la gardienne des valeurs, et un symbole de résistance contre l'envahisseur. Donc, le voile de la femme musulmane n'a plus seulement la signification spirituelle ou la signification de l'obéissance à l'homme. Il est devenu un symbole de résistance dans ces pays-là, un symbole politique, un symbole du nouveau féminisme islamique pour certains. Si on retourne à l'exemple de l'Afghanistan, la même chose s'est passée. Une fois, ici, à Ottawa, j'ai posé une question à ma voisine afghane qui prenait l'autobus avec moi et qui était médecin de formation et qui voulait réussir ses examens pour pratiquer ici la médecine au Canada. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui portent la burqa en Afghanistan ? Et elle m'avait répondu que la burqa était un habit traditionnel dans certaines régions et surtout dans les milieux ruraux. On n'en voit pas beaucoup à Kaboul, m'avait-elle dit, ni dans les grandes villes. Ainsi, les Américains sont allés tuer des Afghans sous prétexte de quoi ? De libérer les femmes afghanes. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui vraiment écoutaient ce discours, y croyaient. Oui, on est allé là-bas pour libérer les femmes afghanes, pour que les petites filles afghanes aillent aller à l'école. C'est très beau comme message, ça nous fait, on se sent bien quand on y croit. Mais au contraire, ce qui s'est passé sur le terrain, cette invasion a rendu la population encore plus radicalisée et encore plus résistante à envoyer les fillettes à l'école. Pourquoi ? Parce qu'on voit des gens qui vont mourir, on voit des gens qui sont emprisonnés illégalement. Et en plus, qui va être pris en otage dans toute cette guerre entre d'un côté un message libérateur et d'un autre un message conservateur ? Bien sûr, ce sont les plus vulnérables de la société, ce sont les femmes. Malheureusement, aujourd'hui, en tant que femme musulmane, je me sens prise en otage par deux visions radicales. D'un côté, il y a un discours libéral, peut-être libérateur, qui, sous prétexte de me libérer de mon voile, de me sauver de l'oppression, me dicte ce que je dois porter, ce que je ne dois porter, me juge sans vraiment me connaître, sans vraiment connaître mon histoire, et qui me juge par ce que je porte et par ce que je ne porte pas. Et d'un autre côté, il y a un discours religieux conservateur qui utilise mon voile comme un symbole de piété sublime, ou comme le symbole de mon obéissance à l'homme, ou comme un symbole de gardienne de la civilisation ou gardienne de la religion. Comme si ce voile-là a été à cette connotation ou à cette prétention de garder la religion intacte. Eh bien, malheureusement, je suis désolée. Je suis désolée parce que je rejette ces deux visions tout à fait moralisatrices et infantilisantes pour la femme. Mon voile fait partie de ma personnalité. J'ai choisi de le porter non pas pour une raison unique, pour faire plaisir à mon mari, ou bien pour, pour toute autre raison. Je l'ai choisi de le porter pour diverses raisons. D'ailleurs, comme toutes les décisions que nous prenons dans la vie, il n'y a pas un seul aspect, il y a plusieurs aspects qui vont entrer en jeu. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect social, il y a l'aspect esthétique. Tant qu'on est des femmes, pourquoi pas ? Vouloir réduire le voile à une oppression masculine est un alignement politique réductionniste, aux conséquences dangereuses. Bien sûr, quand il est interprété selon un paradigme unique, subordination, patriarcat, oppression, supériorité de l'homme, bien sûr que le voile va constituer la quintessence de la subordination de la femme à l'homme. Mais si l'on inclut les autres dimensions, comme celles que je viens de mentionner, côté social, religieux, esthétique, spirituel, culturel, le voile devient une expression de soi, comme toutes les autres expressions. En Tunisie, le pays où je suis née, pendant les années 80, le gouvernement de Bourguiba, qui est considéré comme le père de la nation, celui avec qui l'indépendance a eu lieu. Et il faut, c'est très intéressant parce que ce président-là, il s'est toujours proclamé comme émancipateur de la femme tunisienne. Et pendant les années 80, il a décidé d'interdire le voile dans les établissements scolaires publics, dans les écoles supérieures d'enseignement, et dans les administrations publiques. Cette interdiction s'est élargie sous son successeur, Ben Ali, le dictateur qui a été qui s'est enfui en 2010 du pays. Et donc, Ben Ali, ce qu'il a fait, il a élargi cette interdiction vers le secteur privé aussi. Pendant les années 80, les femmes voilées n'étaient pas nombreuses en Tunisie. Il n'y en avait pas beaucoup. Le voile avait une simple connotation traditionnelle. Il y avait seulement les grands-mamans qui portaient le voile. Cependant, avec l'avènement des télévisions satellitaires financées par l'Arabie Saoudite et par les pays du Golfe, il y a eu la tout le discours religieux conservateur s'est popularisé. Après, pendant les années 90, l'invasion de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan, le voile est devenu beaucoup plus répandu dans les milieux pauvres au début. Et donc, il y avait la classe bourgeoise, un peu la classe qui disait « Ah, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'affecte seulement les pauvres. » Mais de plus en plus chez les milieux de la petite bourgeoisie et encore plus de la classe, riche. Donc le voile a pris plusieurs connotations. Il est devenu un symbole pour résister à l'invasion américaine, un moyen de montrer sa religiosité dans un monde de plus en plus basé sur le matérialisme, une façon de dénoncer l'hypersexualisation des femmes et le consumérisme. Donc le voile est devenu un symbole de résistance contre la dictature des États arabes, contre la domination des hommes, et un moyen pour échapper à l'harcèlement sexuel très présent dans les rues arabes. Jean Segui, un sociologue français des religions, avait dit « Le voile islamique contemporain apparaît comme une forme d'acculturation au présent moderne dans le respect des préceptes islamiques. » Aujourd'hui, ce qu'on voit après l'interdiction du voile dans les années 80 en Tunisie, ce qu'on voit, même si la mixité dans les rues est là, dans les écoles, dans les lieux de travail, c'est un acquis qui est là pour rester, ce qu'on voit, le paysage visuel a beaucoup changé. Beaucoup de femmes portent le voile. Pour différentes raisons, l'interdiction du voile de Bourguiba a eu l'effet opposé. L'interdiction a fait de celles qui ne voulaient plus porter le voile, elles le portaient par opposition. L'interdiction a fait que celles qui ne pouvaient plus le porter, des martyrs, des victimes, et leur nombre n'a fait que grandir. L'interdiction a créé une classe d'exclus qui se sont retranchés dans leur foyer et qui n'ont plus participé à la vie publique. Mais l'interdiction a fait que même celles qui ne portaient pas le voile voulaient savoir pourquoi le gouvernement l'interdisait, et parfois elle allait même à le porter par simple opposition au gouvernement. Dans d'autres pays musulmans, en l'occurrence l'Arabie saoudite et l'Iran, ça c'est l'exemple contraire. Le voile est devenu l'uniforme, le seul uniforme par excellence à faire porter de force à la femme, sans égard à ses convictions religieuses et sans égard à leurs différences d'opinion. Le corps de la femme est devenu un objet de législation. Combien de centimètres de peau on pouvait voir et combien de centimètres de cheveux on pouvait montrer sans se faire attraper par la police religieuse. Et pourtant, malgré cela, les femmes musulmanes dans ces pays-là résistent. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité. Vous vous demandez comment les femmes résistent quand elles sont habillées en tchador ou en burqa. Eh bien, elles résistent en demandant leur droit à conduire des voitures. C'est aussi simple que ça, mais c'est de la résistance. Elles résistent en demandant leur droit d'aller voter. Elles résistent en écrivant des livres. Par exemple, depuis des années, il y a une pléthore d'écrivaines saoudiennes qui écrivent des œuvres littéraires qui traitent de l'esclavage, de la sexualité, des relations hommes-femmes. En Iran, il y a des femmes cinéastes, écrivaines, politiciennes, qui font la même chose, sinon plus. Mon message n'est pas de dire que l'oppression est bonne, loin de là, qu'il faudrait accepter son sort. Mon message se résume à dire que la femme musulmane n'a pas besoin de quelqu'un pour la sauver. La femme musulmane aspire à la liberté comme toutes les autres femmes musulmanes, comme toutes les autres femmes du monde. Elle a su se débrouiller depuis des siècles pour s'affirmer, pour trouver sa place et pour progresser. J'admets que ce progrès est lent, comme il a été aussi lent ici au Québec, en France et dans d'autres pays, et que sur ce chemin, il y a des embûches de toutes sortes. Les traditions, le patriarcat, les interprétations conservatrices, les extrémistes, et j'en cite. Il est malheureux de voir que le corps de la femme et ses cheveux sont devenus une obsession pour les législateurs des pays occidentaux, aussi bien aussi que pour les législateurs des pays à majorité musulmane. Je vous laisse avec un message d'espoir. Je pense qu'il faudrait laisser les femmes parler, il faudrait les laisser s'exprimer, il faudrait les laisser rêver, il faudrait les laisser trouver leur chemin. Je pense qu'il est temps de faire les choses autrement. Voilà, c'est tout.